Pour comprendre ce que je dis, il faut que je vous explique comment fonctionne la conscience. La conscience ne fonctionne pas simplement comme un réseau de télécommunications. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement une tête chargée de son inconscient, subconscient et tout ce que vous voudrez. Il n'y a pas simplement une tête qui entend quelque chose, qui le met dans l'ordinateur, qui décide d'une phrase ou d'un comportement, donc d'une réaction, et qui ensuite vous sert cette réaction. La conscience, c'est un paysage. Et ce paysage est construit par des milliers et des milliers de petites tentacules, comme une petite pieuvre. Et ces tentacules vont à la rencontre d'autres paysages, d'autres tentacules. Ce qui fait que, avant même que vous ayez dit un mot, votre paysage intérieur a contemplé le paysage intérieur de l'autre. C'est-à-dire que les deux auras se sont frôlées et se sont dit leurs quatre vérités. « Ah non, hein, ta couleur rose, ça ne me plaît pas, moi je ne suis pas un mystique, regarde la jolie couleur bleu marine que moi j'ai dans mon aura. Moi je suis un ésotériste. » C'est ainsi que se parlent les auras. Et c'est comme cela qu'elles s'envoient des coups de coude, des coups de pied, et qu'on voit des couleurs se faire comme cela la guerre. Et si dans l'aura, par exemple, il y a deux couleurs qui vont assez bien ensemble, c'est-à-dire que même si chez l'un il y a trop de rose, alors que chez l'autre il y a du bleu, mais que malgré tout il y a du vert dans l'aura des deux individus qui se font face. Alors sur ce plan-là, ils vont s'entendre grâce à cette couleur verte. Sans comprendre pourquoi, dès qu'ils se mettent à parler de Dieu, ils sont prêts à s'arracher les cheveux. Alors que finalement, ils sont tout à fait d'accord lorsqu'ils parlent des énergies, de la guérison, du magnétisme, etc. Il faut savoir que ce sont vos couleurs qui, au moment où vous exprimez, et même avant que vous exprimiez l'idée, il faut savoir que ce sont vos couleurs qui sont déjà en communication et qui déjà prédestine la communication à bien se passer ou à mal se passer. Alors vous pouvez me dire, mais alors contre cela on ne peut rien faire. Si j'ai du vert quelque part et que l'autre a du jaune, on ne pourra jamais faire quelque chose de beau. On n'arrivera jamais à s'entendre. Bien sûr, vous pouvez en rester là et être conditionné par vos couleurs et par le son de vos couleurs. Vous pouvez très bien rester là, et c'est ce que font la plupart des gens, si bien qu'ils forment des groupes, et si bien que lorsqu'un clairvoyant regarde l'aura d'un groupe, eh bien il voit exactement la même aura que celle qui existe autour du corps de chaque individu qui compose ce groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère. Si par exemple vous êtes une personne à dominante de violet et que vous vivez conditionné par ce violet, vous allez attirer à vous les personnes de la même couleur, ce qui fait que l'être collectif que vous allez composer aura aussi la même couleur. Il n'y a pas de secret. Et c'est pour cela, encore une fois, qu'après s'être fait la guerre sur le plan individuel, les hommes se font la guerre sur le plan collectif. Et l'on voit ainsi des écoles ésotériques ou des écoles de pensée, puis plus loin des nations, s'affronter comme cela. Parce que l'être collectif rencontre un autre être collectif. Et ce qui se passe au niveau individuel lorsque vous rencontrez votre voisin et que vous rejetez son aura, que cela se fait automatiquement, eh bien cet automatisme a lieu aussi entre les êtres collectifs, c'est-à-dire l'être collectif d'un temple, d'une école, d'une forme pensée ou d'une nation. Et c'est comme cela que l'on voit, avant que la guerre éclate, par exemple, entre deux nations, on voit bien avant l'être collectif des deux nations, on les voit se battre. Si bien que la guerre individuelle qui s'ensuit n'est qu'une conclusion tout à fait normale, une conséquence inévitable. Vous pouvez me dire que on n'y pourra rien, que puisqu'il y a une telle diversité des énergies et des couleurs, eh bien, il faut tout simplement se mettre avec celui qui permet la meilleure osmose. Eh bien, je dis non. Et je dis non, non pas parce que je prétends que tous les hommes sont frères et que je veux régulièrement reciter les paroles du Christ et que je veux vous faire entrer ces paroles-là, quoi qu'il advienne et quoi qu'il m'en coûte. Je ne suis pas si bête que cela. Je dis non tout simplement parce que vous avez la possibilité, malgré vos différences, d'expérimenter une très belle alliance, une alliance de tous les instants, avec le balayeur de la rue ou le grand scientifique, avec simplement un prêtre qui en fait ne fait que débuter dans la foi, ou avec un grand occultiste qui a le regard complètement plongé dans l'univers. Vous pouvez établir la même alliance. Comment cela se peut ? Cela se peut non pas parce que vous allez vous souvenir que tous les grands illuminés vous ont dit que vous êtes frères les uns les autres. Cela n'aura pas lieu non plus parce que vous allez vous efforcer en allant chercher au plus profond de vous-même à aimer l'autre. Cela ne viendra pas non plus parce que vous allez vous efforcer de vous croire pas plus évolué que celui qui est en face de vous. Et donc là, vous jouez sur le coefficient d'humilité dont vous êtes capable. L'alliance n'aura pas lieu grâce à ces ingrédients-là. Car un jour, si par exemple vous êtes un peu de mauvaise humeur, eh bien l'humilité, vous n'en voudrez pas. Si un jour vous êtes dans un certain malheur, eh bien l'amour universel, vous n'y penserez pas, vous n'en serez pas capable, etc. Par contre, il y a quelque chose qui vous permettra d'être bien avec tout le monde, le temps d'un contact, le temps d'une discussion qui est nécessaire, d'une visite qui est nécessaire, d'un voisinage qui est nécessaire. C'est en rendant votre aura complètement blanche, en superposant par-dessus vos propres couleurs un vêtement de neutralité. De cette façon-là, grâce à ce manteau de neutralité, vous allez pouvoir être patient vis-à-vis de celui qui vous hérissait il n'y a pas une heure. Alors que vous savez très bien qu'au fond de vous-même, il y a une grande patience, parce que vous avez pu vous prouver à vous-même que vous aviez été patient dans telle et telle circonstance, vis-à-vis de telle et telle personne. Vous savez donc fort bien que la patience est en vous comme une lame de fond, mais voilà un écueil. Et la lame de fond se fracasse contre l'écueil. Voilà que il existe une personne que vous ne pouvez absolument pas supporter. Et cela, tout d'un coup, ruine complètement votre édifice spirituel. Comment cela se peut ? Comment est-ce que j'en suis capable ? Comment suis-je arrivée à pouvoir être impatient, à être irritée, alors que j'essaye de cultiver la tempérance ? Alors que dans 10 minutes, si c'est telle autre personne qui vient me parler, alors que je n'ai pas un spécial amour pour elle, je sais que je serai patient. Cela veut dire donc qu'il y a des couleurs qui communiquent vraiment très mal et qui font que l'aura finit par se mentir à elle-même, c'est-à-dire par se trahir elle-même, paraître impatiente alors que dans d'autres cas, elle est patiente. C'est vrai qu'il y a des couleurs qui se marient très mal, des tonalités qui se marient très mal. C'est à ce moment-là où il faut vous couvrir de blanc. Et c'est très facile. Il vous suffit d'un instant, dès que vous sentez que l'écueil approche, dès que vous sentez que la lame de fond va s'abattre et détruire votre bâtiment spirituel, alors couvrez-vous de blanc. D'un seul coup, faites pleuvoir comme vous deviez faire tomber la douche au seuil de votre maison. D'un seul coup, faites pleuvoir une belle ondulation blanche, crémeuse, pleine de vie. Et vous verrez que vous aurez à disposition toutes vos qualités. Cela ne veut pas dire que cela va vous créer les qualités que vous n'avez pas. Car si par exemple vous n'avez vraiment pas la patience ne va pas être créée pour cela. Je parle de créer cette neutralité pour que vous puissiez conserver les qualités que vous avez déjà, afin qu'elles ne se trouvent pas contredites vis-à-vis de certaines autres personnes qui stimulent en vous le contraire de ce que vous êtes. Je vous donne cela donc pour protéger votre acquis et non pas comme une méthode de création de ce que vous ne possédez pas. Ça ne marchera pas. Si vous ne possédez pas la patience, eh bien il faudra tenter de l'acquérir. Il y a plusieurs manières pour acquérir les qualités spirituelles. Soit vous vous efforcez chaque fois de faire systématiquement le contraire de votre défaut. Par exemple, si vous n'avez pas de patience, eh bien vous vous efforcez chaque fois d'obtenir cette patience. Donc mentalement, vous essayez de vous raisonner. Et vous verrez qu'en utilisant cette méthode, vous allez dépenser énormément d'énergie mentale. Et tout le temps, vous serez obligé de vous rappeler, bon, sois patient, patient 2 minutes. Tu sais, dans un quart d'heure, c'est terminé, tu peux bien attendre un quart d'heure. Et vous apercevrez qu'en fait, vous serez toujours en train d'utiliser l'énergie mentale pour détourner votre esprit du point qui stimule votre impatience. Ce qui fait que si vous faites ça toute la journée et des jours durant, eh bien, vous allez rentrer chez vous avec une irritabilité énorme. Parce que tout aura été bloqué dans le mental. Et le mental lui-même se trouvant surchargé va devoir se décharger quelque part. Et il se décharge en tant qu'électricité tout le long du système nerveux. Une partie de la décharge va revenir au mental, ce qui fait que par là même vous allez vous rendre plus susceptible ou ne pas supporter un bruit à la maison, etc. Mais ceci peut être quand même effectué de temps en temps pour obtenir une certaine force de persuasion sur soi-même. Il faut pouvoir être capable de se persuader soi-même. Il faut pouvoir se sentir capable de se mener soi-même, comme l'on mène un cheval. Donc de temps en temps, il est très bon d'utiliser cette énergie mentale. Mais il ne faut pas compter uniquement sur cette énergie-là, car vous aboutissez à l'irritabilité, donc à l'effet contraire de ce que vous souhaitez. Vous pouvez employer en complément donc une deuxième méthode, qui est tout simplement le lâcher-prise. Je lâche. Interrogez-vous, si telle personne que je vois régulièrement et qui me dit régulièrement la même chose, et que régulièrement cette chose m'énerve, si bien que je voudrais la hacher menu, si cette personne arrive à m'énerver, c'est parce que je la vois, c'est parce que je l'entends, c'est parce que je participe à ce qu'elle me dit. Même si je ne suis pas d'accord, d'une certaine manière, je participe à ce qu'elle me dit. J'écoute trop profondément. J'écoute avec toute mon identité qui, d'un seul coup, contemplant la différence, s'écrie « Non, je ne suis pas d'accord ». Mais c'est parce que j'écoute avec toute mon identité, avec tout l'être inférieur que l'on appelle la personnalité et la psychologie, englobant aussi le caractère, etc. Si donc je regarde l'autre avec une certaine distance, avec une distance que j'imagine nécessaire pour qu'un train puisse passer. Gardez toujours cette distance, moralement. Imaginez tout le temps qu'un train puisse passer entre vos deux esprits. Si je garde cette distance, au moment où la personne va émettre ce qu'elle émet régulièrement et que je n'aime pas, automatiquement, la chose qui est émise ne trouvera pas un pont direct avec ma personne. La chose émise va se perdre dans ce vide que j'ai créé entre l'autre et moi. Si bien que sa parole, son idée, son geste et même l'énergie de son aura va basculer dans ce vide. De ce fait, je ne suis jamais atteint. Un homme peut me cracher au visage. Il est certain que sa salive ruissellera sur ma joue. Je ne peux pas renier l'existence de son crachat, c'est certain. Mais mon vrai visage n'est jamais atteint. Et c'est cela que les hommes appellent le détachement. C'est ce qui leur semble si difficile à conquérir. Et c'est difficile parce qu'ils utilisent la mauvaise énergie. Alors que pour le sage, c'est très facile de continuer à être détaché parce qu'il a compris quelle énergie il devait utiliser pour cela. Sitôt que vous créez des distances, ce qui ne veut pas dire que vous devez être distancé par rapport à tous les hommes. Simplement, l'identité que vous projetez et qui est vous-même, cette identité-là doit toujours garder une distance, de façon à ne pas croire ce que l'autre va dire, ne pas s'identifier avec ce que l'autre va dire. Si bien que lorsqu'un homme se lèvera et vous dira « Mais tu es le roi des imbéciles. Tu es l'être le plus bête que j'ai jamais rencontré. » Si votre identité reste dans son cercle et imagine qu'il faut une distance propre à laisser passer un train, eh bien vous n'allez pas commettre l'erreur de rentrer dans le jeu de l'identification. Vous n'allez pas croire ce que dit l'autre, vous identifiez à ce que dit l'autre et rentrez chez vous, à l'intérieur de chez vous, complètement ravagé, traumatisé, complexé. Ce qui fait que par là même, vous allez être obligé de vous défendre ou d'agresser quelqu'un d'autre parce que vous avez été agressé. Il est très facile de créer cette distance, ce qui ne veut pas dire que c'est une distance qui permet de mettre une indifférence entre deux individus. Ce n'est pas cela du tout. Cela n'est pas une distance d'indifférence. Cause toujours, mon petit bonhomme, moi je suis dans mes quartiers, tu ne pourras pas m'atteindre. Ce n'est pas comme cela que vous devez conclure qu'il s'agit de réagir. Ce n'est pas de l'indifférence. Au contraire, c'est un puissant amour. Pourquoi ? Essayez de le comprendre pourquoi. Avant que je le dise, Essayez de comprendre pourquoi je dis qu'à ce moment-là, c'est de l'amour. Captez, recevez. Je vais laisser traîner ma parole quelques instants pour que vous puissiez sentir. Essayez de comprendre pourquoi c'est de l'amour. De l'amour. Et pas de l'indifférence. C'est de l'amour tout simplement parce que ce vide, qui n'a rien à voir avec un vide diplomatique, ce qui aboutirait à être de l'indifférence, ce vide est une grande liberté. Je laisse à l'autre la liberté d'être ce qu'il veut être. Je laisse à l'autre la liberté de dire ce qu'il veut dire, de penser ce qu'il veut penser, ou de penser tout simplement ce qu'il est seulement capable de penser. Ce n'est pas forcément toujours et systématiquement une volonté. C'est souvent tout simplement une question de capacité. Ce vide diplomatique est un geste d'amour, un geste dans lequel l'autre trouve l'espace pour exister tel qu'il est. Et vous-même, par là même, vous vous laissez aussi le même espace pour votre propre existence, sans que cela nuit à l'autre. De ce fait, en homme libre, vous pouvez tous penser, dire ce que vous voulez. Par contre, dès que ce vide diplomatique n'existe plus, dès qu'il y a projection de mon identité, et Dieu sait que lorsque l'on est en incarnation, tous les êtres humains tombent dans ce piège, ils se projettent à l'extérieur. Je me projette dans la forme, je me projette dans les pensées qu'entretiennent les autres à propos de moi. Et c'est là où tout va mal. Parce que si les autres entretenaient sans cesse des pensées bénéfiques à mon propos, si tout le monde pensait que je suis beau, intelligent, etc., je serais très heureux sur la terre. Mais voilà. Il y a ma mère qui m'a dit que j'étais idiote et je n'avais que 6 ans. Et je l'ai cru et je la crois encore. Même que j'essaye de me convaincre du contraire, je la crois encore. Puis plus tard, il y a eu mon père qui a dit que j'étais peut-être bon à rien parce que je n'ai pas réussi à mon examen. Depuis, j'ai réussi d'autres examens, mais il a parlé tellement fort et tellement juste à ce moment-là que je l'ai cru et depuis j'y crois encore. Ce qui fait que j'ai beau remporter tous les examens du monde, j'ai toujours envie d'une certaine victoire parce qu'il me semble que je suis toujours dans la défaite. Mais en fait, c'est une victoire intérieure que tu cherches. La victoire sur ton père qui t'a donné à ce moment-là une fausse image de toi-même. Et c'est pour cela que quand tu fais tes compétitions, tu n'as pas choisi des compétitions qui puissent t'amener dans un milieu mixte, par exemple. Tu fais des compétitions systématiquement dans un milieu masculin, parce que tu veux remporter la victoire sur ton père. C'est un exemple que je cite. Et puis il y a mon premier amour. Ah, ça, c'est important, un premier amour. Ça marchait très bien les premiers temps. Puis au bout de quelques mois, voilà que mon premier amour me dit que je suis laid, très laid, incapable de l'érotisme le plus primaire, ce qui m'a percé droit dans le cœur, pensez donc. Et me voilà aujourd'hui, messieurs, mesdames, à attendre l'autobus. Et je pense à toutes ces choses. Je pense à cette incapacité dont m'a parlé ma mère, à cette incapacité dont m'a parlé mon père, à cette autre incapacité qui est venue couronner le tout et dont m'a parlé mon premier amour. Alors ne soyez pas étonnés à ce que je sois habillée toujours de gris, avec un manteau trop long pour me cacher, des lunettes étroites pour écourter ma vue, sans compter le chapeau, sans compter les gants, sans compter les épaules que je remonte pour qu'elles puissent mieux me couvrir, sans compter aussi la petite voix pour que l'on ne me remarque pas. Ce qui fait qu'au bout de quelque temps, eh bien, la colère vient et me donne envie de casser des tables. Et comme j'ai un enfant et qu'il est turbulent, eh bien sur lui je déverse mon excès d'autorité. Et sitôt que je l'ai déversé, je me plains à moi-même. Je me trouve laid. Je me trouve vil. Et tout ça a commencé quand? Quand j'ai cru tout ce que l'on disait à propos de moi-même. Quand j'ai cru que j'étais bête, incapable et impuissant. Quand j'ai cru toutes ces choses, ma vie a basculé, est devenue un enfer pour moi et pour les autres. Où est la solution pour toi? La solution se trouve dans un geste simple, un geste de l'esprit, qui consiste à retirer la projection. Si tu as cru toutes ces choses, c'est parce que ton esprit, en suivant le mouvement de l'incarnation, ton esprit s'est précipité vers l'extérieur. En se précipitant vers l'extérieur, il a rencontré toutes sortes de formes, de sons, donc de mots, d'idées, de comportements. Et étant trop à l'extérieur, il agissait exactement comme une plaque photo, comme un film photo. Et tout ce qu'il a vu à l'extérieur est venu s'imprimer sur son film. Pauvre esprit. Lui qui était venu voir le monde, il repart avec une triste vidéo à regarder au septième ciel. Des coups de poing, des coups de pied, des complexes, des traumatismes. Lorsque vous allez retourner au septième ciel et que vous allez dérouler votre bande vidéo auprès de vos amis pour leur montrer ce que vous avez vu sur la Terre, imaginez un peu ce que vous allez leur montrer comme film. J'ai commencé par naître étouffée, ou bien par césarienne, ou bien je suis née en avance et l'on m'a mis dans une couveuse. Le film commence déjà pas si bien que cela. Et je ne vous raconte pas les gifles, les fessées, les remontrances que j'ai endurées pour être élevée, sans compter toutes les fois où l'on m'a arraché des cheveux à la récréation. Puis plus tard, pendant ma vie professionnelle, regardez tous les coups de poing, les coups tordus, les crocs en jambes que j'ai expérimentés. Quel triste film! Et comme à ce moment-là, vous vous trouverez en quelque sorte au paradis, eh bien, les amis ne voudront pas regarder votre vidéo, tout simplement parce qu'ils auront mieux à faire dans le plan qu'ils viennent d'atteindre. Donc, toutes les choses que vous voyez à l'extérieur, auxquelles vous vous identifiez, les choses que vous croyez, s'impriment sur votre conscience. La conscience agit à ce moment-là comme un film, une pellicule photo. Si il n'y a pas le témoin pour décider d'un certain tri qui devra être fait entre ce qu'il est bon d'imprimer et ce qu'il n'est pas bon d'imprimer, tout ira sur vous, tout rentrera et construira des ténèbres et des enfers en vous. Si si au contraire il y a le témoin? À ce moment-là, il y a une douane. Et à cette douane, on laisse tous les bagages inutiles de l'autre côté. On ne remporte que l'essence des expériences. Et des expériences qui véritablement ont un sens et une valeur ésotérique. Comment créer ce témoin? Eh bien, ce témoin, c'est le vide diplomatique dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est grâce à cet intervalle que vous arrivez, que vous vous permettez d'être vous-même. C'est grâce à cela que vous arrivez à regarder l'autre tel qu'il est et non pas l'autre en tant que miroir de vous-même, jugement de vous-même. Dans cet emportement pour croire trop ce que pensent et ce que disent les autres, il y a d'une part le phénomène de l'incarnation, donc de la projection, mais il peut aussi y avoir quelque part des petits problèmes karmiques. C'est-à-dire quelqu'un qui, ayant par exemple commis des erreurs, ayant été nuisible de quelque manière que ce soit dans un passé, cette personne-là va naître avec une certaine culpabilité, si bien qu'elle va chercher absolument dans le regard de l'autre l'énergie pour la fouetter, l'énergie pour l'exorciser, l'énergie pour lui faire payer, entre guillemets, le mal qu'elle a commis. Ces attitudes-là sont beaucoup plus difficiles à traiter. Et il faut dans ce cas-là vous en remettre à un véritable thérapeute, quelqu'un de bon conseil qui vous aide à remonter à la racine du problème ou qui vous aide à brûler par accélération du karma en ayant une meilleure compréhension par exemple de votre thème astrologique et de vos énergies, qui vous aide tout de suite en disant « Eh bien là est le point ». Mais en utilisant telle énergie, tu vas pouvoir brûler cette dette et tu seras libéré. Si donc vous faites partie de ce genre d'individus qui vivent une culpabilité, vous n'arriverez pas à en sortir tout seul. Remettez-vous entre les mains d'un thérapeute. Que celui-ci utilise la remontée dans l'inconscient, la lecture du passé, ou qu'il utilise les balayages d'aura, ou qu'il utilise par exemple les thèmes astrologiques pour voir quelles énergies ne fonctionnent pas et devraient fonctionner dans votre vie. Si vous ne faites pas partie de cette catégorie, alors tout de suite, attelez-vous à ce travail. Ne commettez pas l'erreur de vous projeter sans cesse dans ce que disent les autres, dans ce que pensent les autres, ou face à toute une société. Ce qui fait que moi, parce que je suis comme cela et que la société ne l'est pas, eh bien c'est moi qui ne va pas. Bien sûr, il y a des repères que l'on peut faire, car il est certain que un certain bon sens est souvent partagé par les autres et qu'à partir de cet exemple, le bon sens auquel vous rapporte l'autre est quelque chose à écouter, c'est un conseil à suivre. Vous ne devez pas donc systématiquement ignorer tout ce qui vient de l'extérieur sous prétexte que vous avez votre vie de diplomatique et que vous pouvez faire ce que vous voulez. La vie est un mouvement d'évolution. Vous devez, de temps en temps, savoir jeter un pont-levis dans ce vide diplomatique pour faire atterrir ce pont-levis dans l'aura d'une personne que vous savez de bons conseils ou d'expérience plus ancienne que vous, qui peut vous donner quelques indications pour mieux alchimiser les énergies qui se trouvent en vous. Donc il ne s'agit pas systématiquement de s'enfermer sur soi-même et décider de vivre sa vie comme l'on veut. Dans les premiers temps, les individus ne vont pas savoir à quel moment ils auraient dû lancer le pont-levis pour écouter telle personne, pour suivre telle personne, ou tel livre, ou telle société. Mais ceci fait partie de la roue du karma, la roue de l'évolution. Les endroits où vous n'avez pas su jeter le pont-levis cette fois, l'autre fois vous saurez où jeter le pont-levis. Parce que l'occasion reviendra et le manque qu'avait créé dans le passé votre mauvaise réaction, votre oubli, votre mauvaise appréciation, ce manque-là est devenu si important qu'il se transforme en énergie. Énergie qui va rendre absolument impérative la nécessité de jeter le pont-levis à un moment donné sur quelqu'un, sur un livre, une religion, un temple, une société, une façon d'être, peu importe. Et à ce moment-là, vous allez vous sentir comme étant véritablement propulsé à croire ou à faire, ou à entrer dedans, ou à autre chose. Si bien que vous aurez l'impression que cette énergie est un acquis. Alors c'est vrai, cela peut être un acquis. Mais il y a deux façons d'obtenir un acquis. Il y a une façon positive d'obtenir l'acquis, c'est-à-dire en ayant compris dans une autre vie et en ayant toujours agi d'après la loi qui était à remplir. Mais on peut aussi acquérir l'équivalent de l'acquis, c'est-à-dire son équivalent vibratoire, en n'ayant pas fait du tout ce qui était à faire. En ayant donc accumulé un tel besoin, une telle nécessité, qu'au moment où la circonstance représentant cette même loi à remplir, au moment où la circonstance se représente, toute l'énergie qui avait été créée par le manque se propulse et ne vous demande même pas votre avis, elle sort hors de vous et vous fait agir dans le sens où vous pouvez remplir la loi. Mais il faut pour cela avoir accumulé beaucoup de manques. Ce qui veut dire que selon les sujets, selon les qualités à développer, pendant plusieurs vies, le manque aura été expérimenté, entraînant de grandes souffrances sur soi-même et sur les autres. Tout ceci, c'est du détail, mais c'est un schéma que je voulais prendre le temps de vous expliquer pour vous montrer comment s'articulent les énergies et les expressions à travers les âges. Donc, vous pouvez aller vers Dieu, en fait, en faisant le contraire de la voix de Dieu, comme en faisant ce qui est écrit sur la voix de Dieu. Sauf que si vous choisissez la voie du contraire de ce qui est écrit, vous allez accumuler de la souffrance, vous allez accumuler du karma, vous allez accumuler aussi beaucoup de temps et d'incarnation. Alors que si vous choisissez la voie de faire ce qui est écrit, vous brûlez les étapes en quelque sorte. Vous construisez plus vite vos différents corps subtils, vous passez aussi plus vite les initiations et vous économisez de la souffrance. Et vous arrivez au même point que l'autre. Que l'autre qui est passé par une longue spirale dont le fil était très mince, si bien qu'il avait le temps de passer 1000 fois sur chaque arc de la spirale. Et vous voyez en face de vous arriver un individu beaucoup plus âgé, mais pas plus expérimenté, pas plus lumineux. Donc, si vous allez à gauche, vous pouvez très bien rouler à gauche. Mais si vous allez aller à gauche, il y aura toujours une main pour vous donner la gifle qu'il faut afin de vous faire revenir au centre. C'est une façon de voir les choses. Et si vous allez à droite, vous pouvez rouler à droite, il y aura tout simplement un bâton d'initiation. Et ce bâton, au fur et à mesure des étapes, vous transmettra l'énergie qu'il faut. Celui qui roule à gauche va faire un long parcours avec sans cesse des gifles, des coups de pied. C'est ce que l'on appelle le karma, les dettes karmiques. De temps en temps, il va pouvoir aller à droite et faire quelque temps selon ce qui est écrit. Et à ce moment-là, il rencontre le bâton et il reçoit de l'énergie. Mais on ne sait pas pourquoi, des fois. Par lassitude, peut-être, je ne sais pas. Des individus reviennent à gauche après être allés à droite. Et à ce moment-là, le karma devient encore plus fort. Le karma s'accélère. Il devient un véritable enfer. Et c'est ce que nous redoutons pour les sections de l'occultisme. Des personnes qui, ayant suffisamment étudié les lois, quittent la voie de gauche, se mettent donc quelque temps à droite, et on ne sait pas pourquoi, une certaine folie les prend. L'ego se surdimensionne, et ils quittent la voie de droite pour retourner à gauche et commencent à faire de la magie, par exemple. Ou commencent à vouloir asseoir une gloire personnelle, un pouvoir personnel. Ce qui fait qu'il rencontre à ce moment-là, sur la gauche, un karma exceptionnellement affreux et languissant. Ce qui fait que parfois, en quelques villes, l'individu revient à droite. Mais il faut savoir qu'au moment où il revient à droite, alors qu'il était retourné à gauche, à ce moment-là, des comptes vont lui être demandés. C'est-à-dire que l'individu ne réintègre pas comme cela, comme si de rien n'était. Il ne peut pas réintégrer le sein de la fraternité. Il faut qu'il démontre qu'absolument toutes ces mauvaises tendances, celles qui l'ont reporté à gauche, il faut qu'il démontre que toutes ces mauvaises tendances sont dissoutes. S'il n'est pas capable de montrer qu'elle n'existe plus, alors il ne sera pas accepté. On va le renvoyer sur le chemin de gauche jusqu'à ce qu'il ait fini la purification. Et lorsque celle-ci est terminée, on vient le chercher. Et il y a à travers le monde de nombreuses personnes, des quantités de personnes qui ont commis cet écart dont je parle. C'est-à-dire que là, je ne vous donne pas simplement un exemple ou un détail, je vous parle de quelque chose qui est concret, qui est vivant, qui est partagé à chaque instant. Sans cesse, vous avez des individus qui vont de gauche à droite, qui vont le dimanche à la messe et le lundi matin, en rentrant au bureau, qui se mettent à dire du mal de la secrétaire. Et pourquoi ils disent du mal de la secrétaire ? Parce qu'elle est belle et qu'elle n'a pas cédé. Ou bien parce qu'elle semble toujours heureuse et que lui est sinistrement malheureux, alors il est jaloux. Il y a comme cela sans cesse des oscillations entre la voie de gauche et la voie de droite. Et dans la vie d'un homme qui essaye de marcher, cette oscillation est un véritable meurtre spirituel. On ne peut pas être à la fois de la voie de gauche et de la voie de droite. C'est impossible. Dieu, ou la hiérarchie si vous préférez, la hiérarchie aime les comptes clairs et nets. Et elle préfère à la limite quelqu'un qui dit, eh bien, de manière irrémédiable, je veux rester dans la mafia. Et vous devez savoir qu'il vous faudra monopoliser des armées d'anges et d'archanges si vous voulez effacer le mal que je vais faire. La hiérarchie préférera ce comportement-là, même s'il aboutit aux ténèbres, plutôt que le comportement de quelqu'un qui vient à la messe le dimanche, se remplit du regard du prêtre en faisant croire qu'il a réussi à lui ouvrir les portes de l'initiation, et qu'en sortant de l'église, cet individu recommence les mauvaises pensées, ne prête pas assez d'attention à la vie familiale, est prêt à écraser n'importe qui dans la vie professionnelle, ou néglige complètement ses responsabilités en tant qu'humain vis-à-vis d'autres humains. Celui qui va de gauche à droite sera puni plus sévèrement que celui qui reste à gauche. Cela paraît inacceptable, n'est-ce pas ? Cela paraît inacceptable, mais c'est la vérité. Pourquoi ? Parce que celui qui a décidé d'être un malfaiteur, certes, on peut lui reprocher d'être un malfaiteur, c'est certain. Et la hiérarchie n'apprécie pas spécialement ce genre d'activité. Il est un malfaiteur, mais il ne fait pas de blasphème. Il ignore Dieu, il s'en fout complètement. Il ignore l'amour, il ignore les voisins, il ignore la générosité. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a des longs fusils et qu'avec ça, il compte faire la loi. Tandis que celui qui va de gauche à droite, lui se met à connaître Dieu. Lui, il croit en Dieu. Il commence à soupçonner Dieu, l'humanité ne faisant qu'un seul être. Et soudainement, il y a le blasphème. Soudainement, il renie tout ça et il retourne à gauche avec les autres, avec les loups. Ce qui fait que celui-là, pour avoir connu ne serait-ce qu'un tout petit peu Dieu et être retourné au diable en quelque sorte, celui-là sera sévèrement puni. C'est pour cela que je vous ai dit de temps en temps, qu'en vous précipitant dans la spiritualité, qu'en venant m'écouter ou en allant écouter d'autres personnes qui parlent, vous êtes en danger. Vous devez savoir que vous ne pouvez plus reculer, ni même faire un pas à gauche. Vous êtes définitivement classé dans la voie de droite. Et à partir de ce moment-là, plus rien ne vous sera pardonné en ce qui concerne les écarts sur la voie de gauche. On vous pardonnera tout ce qui est dû à votre manque d'initiation, à la limite, à l'ignorance, à la maladresse. Tout ce qui part en fait de quelque chose qui n'est pas provoqué ni connu de vous. Tout cela vous sera pardonné. Mais si vous connaissez et que vous faites le contraire, alors là, le grand pardon dont on parle, car on dit que Dieu est le grand pardon, Dieu est tout pardon, il tolère, il pardonne tout. Eh bien, vous vous apercevrez avec surprise, avec grand étonnement, en arrivant de l'autre côté, que de temps en temps, eh bien, Dieu n'est pas le grand pardon. Car cette oscillation de droite à gauche n'est pas pardonnée. Il vous faut, dans les ténèbres les plus absolues, purger votre karma à ce moment-là. Et personne ne vient vous aider. Alors que celui qui, en commettant quelques erreurs, mais qui sont dues uniquement à son manque d'initiation et à sa maladresse, alors que celui-là est aidé. Il a autour de lui des guides, puis plus loin, un veilleur, et tout ce petit monde met sa vie en place pour qu'il puisse être aidé, être soulagé, être initié. Mais l'autre est seul, terriblement seul. Ce qui fait qu'il a la possibilité de purger son karma et de revenir à droite, soit de devenir encore pire que ce qu'il est. Et en devenant encore pire que ce qu'il est, pour nous il n'y a pas de tristesse, parce que tout simplement il se trouve dissous. Il vaut mieux dissoudre que mettre en danger le système de rapport qui existe entre la monade, l'âme et une personnalité. Il vaut mieux dissoudre un réseau de personnalités, même si ce réseau-là compte de nombreuses incarnations. Il vaut mieux dissoudre ce réseau s'il n'a pas pu en sortir quelque chose de bon. Donc, lorsque vous êtes dans la vie et que vous essayez d'être un peu spirituel, d'être un peu l'amour, la générosité, la tolérance, sachez que pour avoir soupçonné une seconde ces principes-là, vous ne pouvez plus leur tourner le dos. Et cela devient donc une véritable obligation. C'est comme si vous marchiez à côté d'un train qui avance à grande vitesse. Le train est sans fin. Donc, tout au long de votre vie, le train va rouler, va se dérouler à côté de vous. Tant que vous marchez à côté du train, à votre vitesse, il vous semble que tout va bien, que tout est cohérent. D'accord ? Là, il y a le train à côté, mais c'est son histoire, c'est sa destinée. La mienne, c'est celle de marcher à cette vitesse-là, sur ce terrain-là. Par contre, si, pour une raison quelconque, vous arrivez un instant à attraper la balustrade du train ou la poignée de la porte du train et que vous faites un petit peu de route avec lui, le jour où vous voulez vous détacher de ce train, eh bien, vous apercevrez que vous n'allez pas tout simplement atterrir sur le sol sur lequel vous marchiez avant, mais vous allez y tomber. Parce que le train va vite, parce que le train est en pleine vitesse, et que si vous vous décrochez de lui, eh bien, vous êtes propulsé à terre. Et les cailloux sur lesquels vous marchiez autrefois, et qui n'étaient absolument pas nuisibles pour vous, deviennent à ce moment-là de véritables épées, des couteaux, des morceaux de verre qui vous tailladent partout, qui vous déchirent les membres, qui vous rendent aveugle, qui vous coupent les cordes vocales, qui vous rendent infirme. Tout ceci a lieu dès que vous lâchez le wagon qui, lui, allait vite.